VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, le président de l'Association pour la promotion des droits de l'homme et des prisonniers, blessé lundi soir dans une tentative d'assassinat à Bujumbura, est dans un état stable et sous protection policière à l'hôpital aujourd'hui, selon les déclarations de membres de sa famille à l'AFP. Au micro d'Éric Manirakiza, Innocent Muhozi, directeur général de la radio-télévision Renaissance, explique que cette tentative d'assassinat est probablement liée au meurtre dimanche dernier du général Adolphe Nshimi Rimana, conseiller à la sécurité du président Pierre Nkurunziza.
Je crains qu'il ne se passe pour certaines personnes ce qui s'est passé déjà avec les radios, avec la tentative de coup d'État. On a vu que la tentative de coup d'État a été l'occasion pour en finir avec les radios qu'on voulait déjà fermer depuis un bon bout de temps. Et que maintenant, avec l'assassinat du général Chimilima Adolphe, certains en profitent aussi pour éliminer tous ceux qu'ils avaient eu envie d'éliminer sans pouvoir le faire par le passé.
Il y a eu un appel au calme par le président de la République. Il y a beaucoup de chancelleries qui abondent dans le même sens. Est-ce que vous pensez que le calme va revenir à Bujumbura?
C'est un message tout à fait pertinent d'appeler au calme, un message qui avait été apprécié en général par tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est peut-être trop tard pour tout ça. Ça fait trop longtemps que la violence s'est installée dans ce pays. Je ne suis pas sûr qu'il suffise d'un appel au calme pour qu'on puisse éviter le chaos dans lequel on est en train d'évoluer depuis plusieurs mois. Ce pays s'achemine au vu et au-dessus de tout le monde entier vers un chaos, vers une violence politique généralisé et les gens continuent à regarder comme s'ils ne voyaient pas ça. Ça fait des mois, ça fait longtemps que les gens disent qu'il faut forcer les différents acteurs à s'asseoir et à dialoguer sérieusement sur tout le pays. Certains font la sourde oreille, les gens de la région, de l'Union africaine, de la communauté internationale qui devraient imposer ce dialogue-là font comme s'ils avaient le temps, mais alors ils risquent d'être tout simplement trop tard.
Est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé au Rwanda en 1994 risque d'arriver aussi au Burundi?
Non, la violence à grande échelle peut arriver sans que ce soit nécessairement à caractère ethnique, hein, parce qu'aujourd'hui le problème du Burundi, très clairement, n'est pas ethnique, même si certains veulent l'utiliser. S'il y a des massacres, c'est des massacres qui concerneront tout le monde, qui vont toucher aussi bien des Hutus que les Tutsis. Donc ce ne sera pas exactement comme au Rwanda, mais des massacres à grande échelle sont tout à fait possibles. Une véritable guerre civile chaotique est tout à fait possible s'il n'y a pas vraiment d'intervention politico-militaire énergique pour stopper la spirale que tout le monde voit monter depuis plusieurs mois. Bujumbura, c'est l'insécurité totale.
Innocent Muhozi, directeur général de la radio-télévision Renaissance à Bujumbura. La société civile libre du Gabon exhorte la France à aller jusqu'au bout dans l'enquête préliminaire du parquet de Paris ouverte contre le directeur de cabinet du président Ali Bongo. Meksan Akrombesi a été interpellé puis relâché à Paris après avoir été entendu par la police judiciaire. Nathalie Barge.
Meksan Akrombesi a été interpellé lundi à Roissy par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières alors qu'il s'apprêtait à quitter la capitale française. Il a été relâché dans la soirée selon son avocat Francis Spinner, cité par l'AFP, ajoutant qu'il devait repartir au Gabon où il continuera à exercer ses fonctions. L'interpellation du directeur de cabinet d'Ali Bongo est survenue dans le cadre d'une enquête ouverte en 2007 par le parquet de Paris pour corruption et blanchiment d'argent public étranger. Son immunité a été levée selon le ministère des Affaires étrangères français. Lors de sa garde à vue à Nanterre, Meksan Akrombesi s'est expliqué sur un contrat de 2005 entre la société française marque de confection d'uniformes militaires et le ministère de l'Intérieur gabonais pour un montant de 7 millions d'euros. Une ancienne salariée de la compagnie qui était chargée de l'export à cette époque a également été entendue par la police judiciaire. D'origine béninoise et naturalisée gabonais, Meksan Akrombesi est un influent collaborateur du président Ali Bongo, occupant le poste de la direction du cabinet présidentiel depuis 2009.
Au Soudan, Khartoum se dit prêt à offrir des garanties judiciaires aux mouvements rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu pour qu'ils participent à des négociations de paix. Les précisions de Michel Joseph.
Le président Omar al-Béchir a appelé à un dialogue national dans l'espoir de mettre fin aux conflits qui secouent les régions frontalières et empirent les difficultés économiques du pays. Nous sommes prêts à donner les garanties nécessaires pour que les groupes armés y participent, a déclaré lors d'une conférence de presse le premier vice-président Bakri Hassan Saleh, que cite l'AFP. Parmi ces garanties, le gel des condamnations contre les chefs rebelles. Les discussions doivent avoir lieu au Soudan, insiste le gouvernement, qui dit exclure pour le moment une amnistie totale en faveur des rebelles. Depuis 2003, des insurgés accusant notamment Khartoum de négliger leur région et de les discriminer s'opposent à l'armée soudanaise dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Un conflit qui a fait plus de 300 000 morts et déplacé 2,5 millions de personnes, selon l'ONU. Et depuis 2011, l'armée soudanaise fait face à une insurrection du mouvement de libération du Soudan dans le Kordofan Sud et le Nil Bleu. La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, la procureure de la Cour pénale internationale doit urgemment commencer à enquêter sur les crimes dont est accusé le camp du président Alassane Ouattara lors des violences post-électorales de 2010-2011. C'est ce que déclare aujourd'hui Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York. Jusqu'à présent, seul l'ex-président Laurent Gbagbo et ses partisans, les perdants du conflit, ont été inculpés par la CPI. Et puis ici à Washington, le président américain Barack Obama a donné hier le coup d'envoi de la seconde édition du YALI, l'initiative américaine pour les jeunes leaders africains. Pendant plus d'une heure, le chef de l'exécutif a dialogué avec les 500 jeunes invités à ce sommet. Barack Obama a évoqué notamment l'entrepreneuriat en Afrique et la discrimination dont souffrent les femmes et certaines minorités. Comment son message a-t-il été accueilli? Bagasikoura a posé la question à deux participants venus du Bénin. Voici tout d'abord Aurélie Adam Soulé, ingénieur en télécommunication.
Le discours du président Obama a été très inspirant pour nous tous et je peux le dire fièrement de la part de tous les autres fellows. Personnellement, ce que je retiens le plus, c'est qu'on peut être le plus grand homme, le plus convoité du monde et encore être accessible aux personnes qui sont les plus importantes sur cette terre, les jeunes, les femmes, ceux qui au quotidien vivent en fait toutes les difficultés dans leurs pays respectifs. Le président Obama nous a beaucoup inspirés par son discours.
Quelque part, il a dit, pour savoir la santé économique d'un pays, il suffit seulement de voir comment ce pays traite les femmes. Comment vous appréciez cela?
C'est tellement vrai et c'est tellement pertinent ce qu'il a dit. Parce que regardez autour de vous, en fait. On peut prendre quelques exemples sans trop vouloir jeter la pierre. Regardez dans nos pays, regardez dans nos régions. Au Bénin, il y a des régions où cette suprématie mâle, entre guillemets, est très répandue, très forte. Et je me rends compte que effectivement, économiquement, ce sont les régions qui ont le plus de difficultés à émerger.
On m'appelle Roméo Essou. Et je suis actuellement le directeur national de l'ONG Right to Play au Bénin. Et je suis ici dans le cadre du programme pour les jeunes leaders africains. Et je retiens de son discours essentiellement qu'il a demandé à nous, les jeunes africains, les leaders de demain, le rôle qui est le nôtre dans le processus qui consistera à freiner l'hémorragie des cerveaux africains vers les pays européens. L'Afrique a besoin de ses cadres. L'Afrique a besoin de l'intelligence de ses fils. Malheureusement, la plupart d'entre ces fils qui viennent découvrir tout ce qu'il y a de bon dans le système éducatif occidental, malheureusement, disais-je, tout cela ne retourne pas au pays pour contribuer. Et ce n'est pas toujours parce qu'ils sont animés de mauvaise volonté, mais c'est parce qu'à l'intérieur de l'Afrique, nous n'avons pas créé les conditions qu'il faut pour permettre à ceux-là de revenir et réinvestir leur savoir.
Roméo Essou, un participant au sommet YALI ici à Washington. Et puis le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé hier à Doha, au Qatar, que ses homologues des pays du Conseil de coopération du Golfe sont d'accord sur le fait que l'accord nucléaire avec l'Iran contribuera à la sécurité de leurs pays respectifs, chérubin d'Orsil.
Pour le chef de la diplomatie américaine, un changement positif dans la région est possible, mais rien n'est assuré d'avance.
We'll continue always to pursue diplomacy when diplomacy presents itself.
L'espoir de tous, c'est que peut-être on va tourner la page. Mais nous nous préparons pour le cas contraire, a dit John Kerry, assurant que Washington poursuivra la voie diplomatique quand c'est possible, tout en coopérant avec ses alliés pour prévenir toute tentative de déstabilisation. À cet effet, des groupes de travail seront établis sur le partage des renseignements, la formation des forces spéciales et la sécurité maritime.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.